Bonjour à tous et bienvenue, il est midi et demi.
Europe Midi Week-end.
Sophie Tussaud.
À la une de ce journal, les incendies en France. Ça continue de brûler dans plusieurs départements. Des centaines de soldats du feu sont toujours mobilisés sur le terrain, épaulés par leurs collègues européens. Alors, quelle est leur morale après des semaines de lutte? Nous poserons la question à Yael Lecras, vice-président du syndicat national des sapeurs-pompiers. Des nouvelles rassurantes en provenance des États-Unis. L'état de santé de Salman Rushdie semble moins préoccupant. L'auteur des versets sataniques poignardé de plusieurs coups de couteau vendredi ne nécessite plus l'aide d'un respirateur artificiel. Un an demain que les talibans sont revenus au pouvoir en Afghanistan, les femmes sont les premières à souffrir de ce régime. La situation dans les vignobles, alors que les vendanges ont débuté dans certains départements, la chaleur a-t-elle été bénéfique aux vignes? La récolte sera-t-elle suffisante? On en parlera avec Amélie Petit, responsable du développement au sein de l'association Vignerons Engagés. Ils en ont ras-le-bol du défilé incessant de touristes. Les habitants d'Étretat voient leur ville transformée en lieu de pèlerinage à Arsène Lupin en raison de la série Netflix. Le football, le PSG a déroulé hier soir pour la deuxième journée de Ligue 1. Victoire des Parisiens 5-2 à domicile face à Montpellier. Et avant de développer tous ces titres, la tendance météo, Anthony Kazmarek.
Le temps est instable avec de fréquentes averses orageuses sur une très large partie du pays. Ces orages seront surtout violents dans 8 départements qui sont désormais en vigilance orange, de la vallée du Rhône jusqu'aux Bouches du Rhône. Prudence. Les éclaircies vont revenir en Aquitaine et le soleil va se maintenir des Hauts-de-France jusqu'au Grand Est, tout comme de la Côte d'Azur à la Corse. Les températures sont en baisse, pas plus de 20 à 29 degrés, mais encore 30 à 33 dans le Nord et toujours de la Côte d'Azur à la Corse.
Merci Anthony Kazmarek. Météo complète à la fin de ce journal.
Europe 1.
L'année 2022 a été la plus grave depuis 16 ans sur le front des incendies en France. Depuis le début de l'été, plus de 61 000 hectares ont brûlé. 7 400 hectares ont été dévastés par les flammes depuis mardi uniquement en Gironde. Le feu est considéré comme tenu, mais il n'est pas pour autant fixé. On retrouve sur place au poste de commandement d'Ostens notre envoyé spécial Chloé Lagadou. Chloé, on suppose que l'arrivée de la pluie redonne de l'espoir aux pompiers qui continuent de lutter sur place.
Oui, exactement. Les secours retrouvent enfin le sourire. Le scénario qui prévoyait l'arrivée d'un orage sec, donc susceptible de relancer de nouveaux départs de feu, ne s'est pas déroulé. À la place, il y a eu de la pluie qui a bien sûr humidifié la végétation. Aujourd'hui, les conditions météo sont extrêmement favorables pour les pompiers sur le terrain. L'air est humide et les températures sont basses. Le thermomètre indique actuellement 23 degrés seulement. Alors, c'est certain, ces averses sont un véritable coup de pouce, mais elles ne suffiront pas pour éteindre complètement les flammes, explique Arnaud Mandous, officier de communication des pompiers.
Il est tombé entre 10 et 30 mm sur l'ensemble du secteur, mais sur un terrain qui était extrêmement sec. Donc nous savons que ça nous donne en réalité un répit et non pas une fin de combat. Ce répit, nous l'estimons à 24 ou 48 heures et nous savons que s'il ne pleut pas à nouveau, eh bien écoutez, dans 48, 72 heures, le risque redeviendra important.
Alors aujourd'hui, les 1500 pompiers présents à Ostens sont mobilisés sur le terrain. L'objectif, profiter de cette météo clémente pour éteindre les feux.
Chloé Lagadou, envoyée spéciale d'Europe 1 à Ostens en Gironde. Dans l'Aveyron, le feu a repris de manière virulente hier à Mostouéjouls. Plus de 500 hectares sont partis en fumée. 1000 habitants ont dû être évacués. Une catastrophe pour Christine Bedel, la maire de la commune, très éprouvée par la situation.
Tout le plateau qui est situé au-dessus de nos villages est brûlé. Et puis ça redescend côté gorge du Tarn. Il y a encore des fumerolles qui sont plutôt côté gorge du Tarn. Globalement, on a évacué les trois villages principaux villages, plus tout ce qui est situé sur les gorges du Tarn, c'est-à-dire un hôtel, un camping, quelques maisons. Les personnes évacuées sont tenues de ne pas rentrer chez elles à ce jour. Bien sûr, il y a de l'inquiétude, que ce soit les pompiers comme la préfecture, ils nous disent que le feu n'est pas éteint. Il y a une surface très importante qui a brûlé hier, au moins 500 hectares, et pour arriver à stabiliser ces 500 hectares-là, c'est très compliqué, c'est inaccessible. C'est que de la forêt. C'est pas trop au niveau de la météo ce qui va se passer. On espère qu'il y aura de la pluie, une pluie plus importante cet après-midi.
Et Christine Bedel, la maire de Mostouéjouls dans l'Aveyron, avec Nina Droff pour Europe 1. Notez en parallèle que 180 pompiers sont également toujours mobilisés dans la forêt de Brocéliande. Des situations désespérément similaires partout en France depuis le début de l'été. Ce sont des superficies impressionnantes qui sont dévastées par les flammes. Yaël Lecra, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président du syndicat national des sapeurs-pompiers. Quel est le moral en ce moment des pompiers après des semaines de lutte contre les feux ?
Bien, écoutez, je pense que nous pouvons collectivement rendre hommage à l'ensemble des sapeurs-pompiers et de tous les acteurs locaux comme nationaux et internationaux qui luttent sur le terrain parce que leur morale est toujours au combat. Ils sont déterminés, ils sont engagés dans cette lutte contre les incendies et ils ont pour objectif vraiment de combattre ces feux, surtout si les conditions météorologiques, comme cela vient d'être indiqué, nous laissent une petite pause, un petit répit. Sur le plan du plus long terme, ils souhaitent aussi qu'on n'oublie pas après cette saison de feu, lorsque le travail aura été réalisé, ils souhaitent qu'on ne les oublie pas et qu'on vienne réinterroger un petit peu le mode d'engagement et les moyens humains et matériels qu'on met à leur disposition. Mais pour l'instant, ils sont engagés. La tâche est à l'extinction des feux et le reste viendra ensuite.
Les pompiers européens sont arrivés en renfort cette semaine. C'est évidemment un soulagement pour les hommes. Plus de bras, plus de moyens. Est-ce que vous regrettez que ça arrive si tard au vu de la situation depuis le début de l'été ?
Non, le mécanisme européen de protection civile a fonctionné comme cela doit l'être. Les autorités locales donc de France ont actionné leur dispositif interne, c'est-à-dire le redéploiement des moyens aériens, les colonnes de renfort, le rappel de personnel. À ce sujet, on pourra parler des rappels de personnel professionnel, mais le mécanisme a correctement fonctionné. Et ensuite, lorsque les moyens locaux donc de l'État français ne sont pas suffisants, eh bien on fait appel à l'Europe, au mécanisme européen de protection civile, qui met à disposition des moyens soit propres des États membres de l'Union européenne, soit des moyens qui sont financés par l'Europe dans le cadre du dispositif Rescue, comme les avions qu'on a pu voir arriver. Et alors c'est toujours trop tard une fois qu'on constate l'ampleur des feux, mais sur ce plan-là, on a vu que ça a fonctionné. D'une manière plus générale, on peut réinterroger le dimensionnement de ces dispositifs, puisque on constate que malgré les moyens mis sur le terrain, nous sommes en limite capacitaire, tant sur le plan du matériel que sur les plans humains. Et encore une fois, lorsque le feu sera éteint, il faudra réinterroger cela. Mais pour l'instant, le mécanisme a plutôt bien fonctionné. Ce que l'on pourrait faire fonctionner un petit peu mieux, peut-être, si je peux en terminer par là, c'est la sollicitation des sapeurs-pompiers professionnels qui pourraient être mieux engagés, puisque un pompier professionnel est bien souvent obligé de poser des congés pour pouvoir aller aider ses collègues ailleurs. Ça, c'est un point qui, nous, en tant que syndicat...
Ben justement, il y a Gérald Darmanin cette semaine qui a appelé les entreprises à libérer leurs employés pompiers volontaires. Il y a plusieurs grandes entreprises qui y ont répondu favorablement. C'est quand même un renfort non négligeable.
Alors c'est effectivement un renfort non négligeable puisque le volontariat constitue une ressource indispensable dans notre modèle actuel de sécurité civile. Mais nous aurions envie de dire à M. Darmanin que les sapeurs-pompiers pourraient être libérés par leurs employeurs. Donc les sapeurs-pompiers professionnels dont c'est le métier, nous trouvons un petit peu anormal qu'ils doivent poser des congés pour venir aider leurs collègues. Et voilà, on a des personnels formés qui pourraient venir en renfort. Et sur ce plan-là, il y aura matière à se poser des questions ensuite.
Et pour soulager les troupes, est-ce qu'il faudrait réintégrer les pompiers non vaccinés contre le Covid-19 ? Ils sont environ 5000.
Alors, c'est quelque chose c'est un marronnier qui revient régulièrement. Il ne revient pas à moi de dire s'il faut les réintégrer ou pas. Pour l'instant, ils ne correspondent pas les textes ne le permettent pas. En tout cas, c'est extrêmement minoritaire et c'est pas la réintégration des sapeurs-pompiers qui font beaucoup de bruit autour de ça qui nous aiderait directement à éteindre les feux. En revanche, ça pose question. Je comprends leur position, mais ça pose question quant, encore une fois, aux conditions pour devenir sapeur-pompier et aux règles qu'il faut respecter pour être sapeur-pompier.
Yaël Lecra, Emmanuel Macron réunira l'ensemble des acteurs des départements concernés une fois que les feux seront éteints. C'est afin de réfléchir au modèle de prévention et de lutte contre les incendies en France. Selon vous, comment peut-on mieux lutter et prévenir ces feux ?
Mais écoutez, je pense que c'est une bonne idée parce que là, on est en saison feu de forêt, donc on parle des feux. Mais c'est notre modèle global de sécurité civile qu'il faut réinterroger et notre modèle global d'organisation des sapeurs-pompiers en France. Puisqu'on parle des feux, mais il y a quelque temps, on parlait des inondations. Je rappelle que le nord de l'Europe a été frappé par de très fortes inondations. On peut parler des tempêtes, on peut parler du secours à personne et des soins d'urgence aux personnes. Pardon. Donc il y a tout un champ sur lequel un seul et même acteur est très souvent engagé. Cet acteur, ce sont les sapeurs-pompiers. Donc on peut s'attacher au feu, il faut le faire, évidemment, bien évidemment, c'est une heureuse initiative du président, mais il faut le faire dans un contexte global qui vient d'interroger la totalité de notre modèle de sécurité civile. Et la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur devrait, à notre sens, être plus ambitieuse sur ce plan pour aller au-delà des déclarations et entrer dans la traduction concrète.
Merci Yaël Lecra, vice-président du Syndicat national des sapeurs-pompiers. Alors on vient de l'entendre, les pompiers mènent une lutte acharnée contre les feux et déjà, dans un souci de développement durable, il faut penser à l'après. Comment les forêts sont replantées et comment fonctionne concrètement le reboisement après un incendie, Solène Leroux?
Tout d'abord, il faut définir s'il est possible de valoriser le bois brûlé en le vendant pour financer en partie la nouvelle forêt, car le reboisement a un coût entre 4 et 5 000 euros par hectare dans l'Hérault, selon Francis Cross, président des communes forestières d'Occitanie.
C'est très variable. Il y a la protection des petits plants, il faut mettre des filets. Il y a le prix également des essences à planter.
C'est l'étape suivante, bien sélectionner les espèces à replanter, idéalement 4 ou 5 essences différentes entre résineux et feuillus, par exemple des cèdres, des pins ou encore des hêtres ou des châtaigniers.
Et puis on espère qu'au bout de 30 ans, 40 ans, voire au-delà, l'évolution du climat fera qu'il y aura eu peut-être deux essences qui seront toujours présentes sur ces territoires.
Un choix déterminant pour l'écosystème forestier, explique Annise Avril, responsable de la communication des projets forestiers chez Reforest Action.
L'objectif, c'est vraiment de planter des arbres qui vont être à la fois adaptés au climat de demain, dans un contexte de changement climatique, mais aussi aux conditions pédoclimatiques, c'est-à-dire aux conditions du sol et du climat spécifique à la région où se situe la parcelle.
Une diversité nécessaire, alors que près de la moitié de la forêt française est constituée d'arbres d'une seule essence, selon l'inventaire forestier national. Pour qu'une forêt retrouve son aspect pré-incendie, il faut compter entre 20 et 30 ans.
Solène Leroux, en cette période chargée d'actualité, Gérald Darmanin est mobilisé sur tous les fronts. Le ministre de l'Intérieur a fait passer ce week-end une note au préfet avec en mot d'ordre vigilance entre les traditionnels feux d'artifice du 15 août et la protection des lieux de culte, victimes d'un risque élevé d'attaques terroristes. Rien n'échappe au premier flic de France, Alexis de la Fontaine.
Incendie, rodéo, imam radical et sécurité. Cet été, Gérald Darmanin est sur tous les fronts car le ministre de l'Intérieur veut rassurer les Français face aux catastrophes et à l'insécurité galopante. Et son objectif est simple, imposer sa ligne sécuritaire au sein du gouvernement pour préparer sa loi immigration prévue à la rentrée. Alors pas vraiment du goût de tous les ministres et notamment Elisabeth Borne, la première ministre, qui lui a imposé un débat de 2 mois avant de présenter sa loi, mais surtout Gérald Darmanin veut conquérir l'électorat de droite, des Républicains au Rassemblement National, une stratégie qui rappelle celle de Nicolas Sarkozy 15 ans auparavant. Alors ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy enchaîne les déplacements en coup de poing pour préparer sa candidature à la présidentielle, une stratégie payante que Gérald Darmanin compte bien reprendre à son compte.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1.
Europe Midi Weekend, Sophie Tussaud.
12h43, on prend à présent la direction des États-Unis, 36 heures après la violente attaque dont il a été victime. Salman Rushdie est toujours hospitalisé, mais les nouvelles sont plutôt rassurantes à Viva Fried.
Oui, Salman Rushdie n'est plus sous respirateur, il parle et même il plaisante. C'est en tout cas ce qu'a tweeté un autre écrivain, Atish Tazir, et ce qu'a confirmé l'agent de Salman Rushdie, sans donner pour autant plus de détails sur la santé de l'auteur. Mais c'est une nouvelle qui rassure, alors même que l'enquête sur l'attaque dont a été victime Salman Rushdie continue. L'agresseur présumé, Adi Matar, un Américain d'origine libanaise de 24 ans, a comparu pour la première fois devant le tribunal hier. Il est apparu vêtu d'une combinaison rayée, blanche et noire, avec un masque sur le visage. Il est poursuivi pour tentative de meurtre et a plaidé non coupable. Le procureur a évoqué une attaque planifié. Hadi Matar avait acheté à l'avance son billet pour assister à la conférence donnée par Salman Rushdie. Il est arrivé la veille, muni d'un faux permis de conduire au nom d'un des leaders du Hezbollah. L'examen de ses réseaux sociaux aurait par ailleurs révélé un jeune homme en admiration devant le régime iranien, ses gardiens de la révolution et l'ayatollah Khomeini, celui-là même qui avait mis à prix la tête de Salman Rushdie en édictant une fatwa en 1989.
Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Joe Biden, qui n'avait jusque-là pas réagi à l'agression de Salman Rushdie, a condamné une attaque brutale. Demain marquera pour l'Afghanistan un jour noir. Ce sont les mots employés hier par les manifestantes à Kaboul. 15 août 2021, les talibans prennent la capitale afghane et reviennent au pouvoir. Un retour qui signe le coup d'arrêt d'un espoir de liberté pour la femme afghane. Elles ont manifesté hier dans Kaboul pour réclamer pain, travail et liberté. Une protestation rapidement réprimée par les forces locales. Régis Le Sommier connaît bien l'Afghanistan pour l'avoir couvert en tant que grand reporter sous le premier règne des talibans entre 1996 et 2001. Même s'il ne peut que constater la dégradation de la condition de la femme et des libertés sur place, il constate moins de cruauté publique de la part des talibans.
Ce qui est terrible, c'est qu'il existe quand même une différence avec le premier gouvernement taliban, hein, celui qui s'est exercé sur l'Afghanistan de 1996 à 2001, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de possibilité de manifester du tout. Quand on voulait manifester, les talibans ne tiraient pas en l'air, mais ils tiraient dans la manifestation. On assistait à l'époque à des exécutions dans les stades, on pendait dans la rue, dans les rues de Kaboul. Là, c'était le premier ordre taliban et aujourd'hui, on remarque que les manifestations sont dispersées. Certaines femmes, certaines leaders ont été interpellées et incarcérées, ça on le sait, mais je dirais qu'il n'y a pas eu de bain de sang en public, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de retenue, entre guillemets, une dispersion de la manifestation, mais voilà. Donc ça veut dire que la manifestation a quand même lieu et elle est quand même médiatisée.
Le journaliste Régis Le Sommier avec Louise Douillet pour Europe 1, noté qu'à l'occasion du premier anniversaire de la prise de Kaboul par les talibans, un rassemblement sera organisé demain place de la République à Paris à partir de 17h par la résistance afghane en exil. Une attaque contre un bus hier soir à Jérusalem. 7 personnes ont été blessées, dont 2 grièvement. Un homme a ouvert le feu sur le véhicule près du tombeau de David. Il a été interpellé par la police ce matin.
Europe Midi Weekend.
Sophie Tussaud.
Restez avec nous sur Europe 1 avec la chaleur de cet été. Les ventes de vin rosé ont fortement augmenté en comparaison avec l'année dernière. D'ailleurs, avec ces conditions climatiques, les vignerons auront-ils une bonne récolte? Nous en parlerons avec Amélie Petit, responsable du développement au sein de l'association Vignerons Engagés. À suivre également le ras-le-bol des habitants d'Étretat face à l'afflux de touristes. Et puis le PSG qui a assuré le show hier soir à l'occasion de son premier match de la saison au Parc des Princes. À tout de suite.
Europe Midi Weekend.
Sophie Tussaud.
Le vin rosé, le grand gagnant de l'été. Les températures caniculaires qui ont sévi ces dernières semaines sur la France ont boosté ses ventes, plus 9,8% entre mai et juillet en comparaison avec les mêmes mois de l'année dernière. Margot Faudéré en a fait le constat dans une cave à vin dans le 15e arrondissement de Paris.
Depuis le mois de mai, un client sur deux qui passe le pas de la porte vient pour du rosé. Candice, caviste dans la boutique, l'a bien remarqué.
Chaque mois, on va avoir à peu près 3 rosés qui sont dans le top 10 des ventes. Côte de Provence, on va avoir rosé Corse aussi, qu'on vend beaucoup ici, et également quelques Languedoc.
Pour elle, pas de mystère, c'est la chaleur exceptionnelle de cet été qui booste les ventes de rosés.
Tout de suite, les gens ne vont plus sur des rouges qui sont très costauds. Ils vont rechercher vraiment la légèreté, puis le côté un peu festif du rosé. La consommation a pas mal augmenté, les gens sortent pas mal. On a un parc juste à côté, donc les gens viennent souvent acheter une petite bouteille et se la boire dans le parc.
En plus d'être rafraîchissant, le rosé est aussi beaucoup plus abordable que d'autres vins.
On va être sur des bouteilles entre 10 et 15 euros, donc on n'est pas non plus sur des tarifs excessifs. Sur des bouteilles de rouge, par exemple, on va plutôt être sur une bouteille avec un prix moyen entre 20 et 30 euros.
Du vin rouge qui, contrairement au rosé, a vu ses ventes diminuer de 8,5% entre mai et juillet.
Margot Faudéré, le boom donc des ventes de vin rosé, mais quid de la future production? Les cultures souffrent du manque d'eau, les vignes ne font pas exception et les vendanges ont déjà commencé dans certains vignobles. Bonjour Amélie Petit.
Bonjour.
Vous êtes responsable du développement au sein de l'association Vignerons Engagés. Quel va être l'impact des situations climatiques actuelles sur les vendanges?
Alors, on voit déjà qu'on avait un bon potentiel au début du millésime, hein, c'est-à-dire que la vigne, elle avait de quoi produire beaucoup de raisins et une belle production. Et on a déjà une production qui a commencé à être impactée par des événements climatiques qui ont été violents dans certaines régions. Je pense notamment aux épisodes de grêle ou au gel tardif. Et effectivement, cette sécheresse qui a commencé dès le printemps, c'est-à-dire au moment où la vigne développe son raisin. Mmh. Alors ça a donné effectivement un plus petit potentiel de rendement, et là la canicule, ça amplifie encore ça, parce que ça permet pas, enfin l'eau s'évapore de la vigne et du coup ne va pas gorger le raisin existant.
Donc il y aura moins de grappes de raisin à récolter.
C'est ça, en fait. On aura toujours un meilleur rendement que l'année dernière, puisqu'on avait eu un fort épisode
avec
de gel,
pluies,
vraiment très violent, tout à fait.
Et les gels,
Mais on voit que par rapport au potentiel qu'on avait en début de saison, on subit vraiment ces épisodes climatiques intenses qui sont caractéristiques du réchauffement climatique qu'on subit de manière générale.
Alors, moins de volume, mais beaucoup de vignerons ont l'espoir d'avoir une bonne récolte. Est-ce que finalement 2022 sera un bon millésime ?
Alors, ça va être très hétérogène. Hein. On a effectivement, c'est toujours un peu le cas à la fois entre les différents vignobles de France, mais aussi au sein des différentes exploitations viticoles. Hein. Ça dépend toujours forcément du travail du vigneron. C'est difficile à dire.
Merci Amélie Petit, responsable du développement au sein de l'association Vignerons Engagés. Alors, vendange entamée ou pas, les vacances sont l'occasion de visiter un vignoble et d'aller acheter du vin directement chez le vigneron. Si l'envie vous en prend, surtout, levez le pied sur la route. Depuis quelque temps, un radar nouvelle génération à double face est entré en service. Il flash deux fois le même véhicule devant et derrière. Reportage en Bretagne de Charles Guyard.
La peur du gendarme, ça permet de lever le pied tout de suite.
Pour le nouveau préfet du Morbihan, Pascal Bollot, les automobilistes ont bien raison de craindre les forces de l'ordre. Et quand les militaires ne sont pas présents au bord de la route, la machine prend le relais.
Il y a un réseau de radars fixes qui sont aussi efficaces.
Et depuis quelques temps, attention, des radars nouvelle génération permettent de flasher l'avant et l'arrière d'un même véhicule en infraction. Pour le capitaine de gendarmerie, Joseph Frégnaud, c'est un vrai plus.
Dans certains cas, par exemple des véhicules qui n'ont des plaques que à l'arrière, comme les deux roues motorisées, ça va permettre de pouvoir les reconnaître sur des voitures en pouvant comparer la plaque à l'arrière qui pourrait être soit tombée, soit dégradée. On a finalement la concordance de l'identification.
Identification du véhicule, mais surtout de celui ou celle qui le conduit. Avec une photo prise de face, impossible désormais d'accuser, à tout hasard belle-maman, d'avoir appuyé sur le champignon pour éviter de perdre des points.
On va pouvoir avoir des informations également sur le conducteur. Ça évite des tentatives de se soustraire à la verbalisation alors que l'automobiliste était bien en possession de sa voiture à ce moment-là.
Voilà, avec ces radars double face, terminés les petits arrangements en famille ou entre amis, mais les autorités espèrent surtout que le trafic particulièrement chargé durant ce chassé-croisé du 15 août découragera les fous du volant. Dans le Morbihan, Charles Guyard, Europe 1.
Et la route des vacances ou de ce week-end du 15 août va peut-être vous mener à Étretat pour admirer ses falaises et profiter de sa plage de galets. Cette année, dans la foulée de la série Arsène Lupin diffusée sur Netflix, la petite ville normande connaît un afflux record de touristes aux grandes dames de ses 1200 habitants. Clément Barguin.
Sur la promenade d'Étretat, les touristes se pressent pour prendre des photos devant la fameuse aiguille creuse chère à Maurice Leblanc, aperçue dans la série.
Oui, on a vu la série Lupin sur Netflix, ça a beaucoup plu à mon fils adolescent.
Par exemple, il y a eu la scène là, où il a perdu son fils et il l'a cherché et tout. Du coup, on est venu pour voir ce lieu et tout.
Plus de 7000 visiteurs déambulent chaque jour dans les rues de la station balnéaire, c'est 6 fois plus que la population en temps normal. Même ce plagiste sature face au flot de touristes.
Là, comme les étrangers sont revenus, il y a encore plus de monde. Là, il faut que ça s'arrête quand même parce que c'est vraiment beaucoup, beaucoup de monde. C'est impressionnant. Cette année, c'est impressionnant. Surtout qu'ils nous font de la pub entre guillemets, Arsène Lupin. Enfin, maintenant, c'est une renommée mondiale. Hein, tout le monde vient. Hein.
Des files ininterrompues de voitures qui cherchent une place de stationnement, des rues bondées. Pour ces habitants, c'est trop, même beaucoup trop.
Les touristes ne sont pas forcément respectueux du site et tout, donc ça nous dérange un petit peu.
Mais c'est infernal, vous voyez, ça passe. On est envahis, hein. Collé, serré, c'est catastrophique. Il y a trop de monde. Hein, les Étretatais n'en peuvent plus.
À long terme, la mairie aimerait interdire le stationnement des voitures des touristes dans la commune. Étretat, Clément Barguin, Europe 1.
Et notez que vos conditions de circulation sont nettement meilleures aujourd'hui. Hein. C'est vert dans le sens des départs et des retours au niveau national. Seul le pourtour méditerranéen est placé en orange. On passe au football. Deuxième journée de Ligue 1, Paris a assuré le spectacle hier soir pour son premier match de la saison à domicile. Le PSG a étrié Montpellier 5-2. Une belle entrée en matière donc pour les Parisiens, mais pas pour une de ses stars, Kylian Mbappé.
Gaspard Mbappé gagnant, mais pas content, malgré un match plutôt correct, ponctué d'un but. Pour son grand retour, l'international français n'a pas totalement convaincu. Pénalty manqué à la 23e minute. Nerveux, comme le démontre son mécontentement juste avant la mi-temps, quand Vitinha ne lui fait pas la passe. Seul dans le rond central, pendant que ses coéquipiers profitaient de la pause fraîcheur, il n'était pas non plus très enjoué quand Christophe Galtier l'a fait remplacer en fin de match. Un comportement qui n'a rien de dramatique, selon le coach parisien.
Avoir quelques problème avec ce profil de compétiteur et de grand joueur, c'est pas trop un problème. Vous savez, les problèmes, c'est quand vous avez des... ou c'est difficile quand vous avez des problèmes avec des joueurs qui n'ont pas ce niveau. Voilà, ils sont compétiteurs, ils veulent tous jouer, ils veulent tous marquer, pas sortir. Mais voilà, on va arriver bientôt dans des enchaînements de matchs et il faut que tout le monde comprenne qu'il faudra aménager et gérer les temps de jeu des uns et des autres.
Comportement qui contraste avec le sourire de Neymar, auteur de 2 buts et d'un très bon match pour son retour au Parc des Princes. De son côté, Lionel Messi a été plutôt bon malgré son absence de but, mais on peut se demander si la fameuse MNM prendra complètement un jour.
Gaspard de Vaubicourt, entre résultats, Monaco et Rennes ont fait match nul, un partout. 6 matchs à suivre aujourd'hui, Nice-Strasbourg à 17h05 et également Brest-Marseille à 20h45. Notez que le match Lorient-Lyon a été reporté en raison de la clôture du festival interceltique. Voilà, il nous reste à présent à voir le temps.
À la plage ou au bureau, retrouvez la météo. Avec les 250 hôtels Kyriad, partez à la découverte de nos régions sur kyriad.com.
Et les températures sont en chute, Anthony Kazmarek.
Exactement, écoutez bien ces valeurs. Seulement 20 degrés à Rennes cet après-midi contre 36 hier après-midi, une chute de 16 degrés, 24 à Cherbourg et Biarritz, 26 à Lyon et Bordeaux, 28 à Paris et Rouen, 29 degrés à Toulouse. Mais la chaleur se maintient encore un peu des Hauts-de-France au Grand Est, 32 degrés par exemple pour Lille ou pour Nancy. Mais partout ailleurs, des averses orageuses circulent, elles sont parfois violentes, notamment dans 8 départements placés en vigilance orange à l'est du Massif central, dans la vallée du Rhône et aussi les Bouches du Rhône. Prudence, il peut y avoir de la grêle, de fortes rafales de vent et de forts cumuls de pluie. Mais dans l'après-midi, les éclaircies vont déjà revenir en Aquitaine et puis la Corse restera logiquement à l'abri de ces orages, orages qui pourraient gagner en toute fin de journée la région parisienne, la Lorraine, l'Alsace, mais les Hauts-de-France devraient rester au sec jusqu'à demain matin. Demain, ce sera déjà d'ailleurs le retour au calme avec des températures qui seront même encore en baisse par rapport à aujourd'hui.
Merci Anthony Kazmarek.